voudrions aborder la question de la communication qui se situe à l'intérieur de la recherche de l'union qui est propre à l'amour véritable. Souvenez-vous, le premier enseignement, nous avons parlé de l'amour comme d'une force unitive. Il y a le chemin par lequel l'amour cherche l'union, passe par la communication. Pour vivre la communion, nous avons besoin de nous entendre. Quand deux êtres ne se comprennent vraiment plus, nous savons ce qui se passe, ils finissent par se séparer. Nous sommes ainsi faits, et donc, puisque l'union est vitale, nous vivons de relations, nous vivons aussi de communication. Je distinguerai deux choses. La communication est vitale pour l'union, pour la communion du couple, d'abord parce qu'elle permet de nous connaître, de nous comprendre et de nous connaître. Au-delà des mots, quand l'autre s'exprime, parle, il laisse passer ce qu'il est, sa personne qui se dévoile. Il y a cet aspect donc de connaissance mutuelle, mais il y a aussi un autre aspect dans l'amour qui est celui du service, qui fait que non seulement nous grandissons dans l'union, mais aussi nous nous édifions, nous nous aidons à grandir les uns les autres à travers un service qui est en définitive le service de la vérité. Actuellement, il y a beaucoup de parcours qui explique des méthodes de communication. Nous n'allons pas parler d'abord de méthodes de communication, mais nous allons essayer de voir plus en profondeur comment le Christ peut nous conduire à un dialogue, je dirais, de cœur à cœur, dans une vraie rencontre des personnes, et dégager pour ça quelques règles proprement de sagesse proprement évangélique. Nous allons donc pas rentrer dans les détails pour cette fois-ci. Peut-être certains points nous pourrons l'approfondir la prochaine fois où nous parlerons un peu de la question des conflits. Mais aujourd'hui, je voudrais montrer la communication comme étant le lieu d'un combat proprement spirituel. C'est-à-dire, c'est dans le cœur d'abord que se décident les choses. Alors, je ne vais pas non plus parler de la différence de communication entre l'homme et la femme, parce que nous parlerons de cette différence l'année prochaine. On ne va pas non plus traiter de tous les langages de l'amour, le langage du corps, le langage du regard, le langage des services rendus, des cadeaux, parce qu'il me semble que la difficulté la plus grande, elle se situe au niveau de la parole. Et que la parole a plus un poids et une force particulière qui fait dire au Siracide, la parole vaut mieux que le cadeau. Et qui fait dire au Christ que c'est d'après nos paroles que nous serons justifiés et d'après nos paroles que nous serons condamnés. Donc je voudrais insister en fait sur la difficulté de la parole. Je crois que plus on avance dans la vie, plus on se rend compte que c'est difficile de trouver la parole juste, la parole qui rejoint vraiment l'autre. Au début, le dialogue peut paraître facile parce que le sentiment amoureux permet de surmonter beaucoup de choses, mais avec le temps, on sait bien que la communication devient encore plus difficile et plus vitale aussi, parce que c'est à travers elle que l'on va pouvoir donc surmonter les conflits. Et c'est à travers elle aussi donc que l'on va pouvoir approfondir la relation comme échange, j'ai envie de dire comme circulation, qui fait que on est dans une relation vivante, dans une rencontre continuelle de personnes qui vont l'une au-devant de l'autre. En fait, Dieu nous a créés de telle manière qu'on communique d'une certaine manière malgré nous. Ça veut dire qu'en réalité, tout ce que je vis rayonne. On dégage quelque chose sans le vouloir. Et l'autre ressent ce que l'on dégage. Et donc, comme dit Benoît XVI, hein, la vie des autres entre dans ma vie. Et ma vie entre dans la vie des autres. Mais il peut y avoir comme ça des choses qui restent dans le non-dit, mais que l'autre sent. Et pour le bien et pour le mal. Et en fait, communiquer, c'est passer dans une relation libre et consciente, dans laquelle, je dirais, on se dévoile soi-même à travers les mots, dans un effort d'ouverture conscient à l'autre, avec la force propre de la parole, qui permet de dépasser je dirais, des tensions qui sont liées à tout ce qui se dégage malgré nous dans la relation, c'est-à-dire notamment quand une personne a de la colère, on le ressent. Il y a des choses qu'on sent comme ça à travers l'attitude de l'autre sans qu'il communique à proprement parler. Mais les psychologues aiment dire aussi que les inconscients se parlent. Je crois qu'il y a beaucoup de couples qui fonctionnent uniquement par communication d'inconscient, mais il faut arriver à aller plus loin que ça. Hein? Parce que cette communication, elle peut être aussi dans un sens négatif. Hein? Je veux dire par exemple que si je garde au fond de moi-même un jugement sur l'autre, ça va peser sur lui. Simplement parce que je garde ce jugement et je ne vais pas jusqu'à, je dirais, dire les choses jusqu'au bout. Et comme on dit, le non-dit peut peser plus que tout le reste. En fait, c'est difficile de dépasser ce niveau d'une communication, je dirais, dans lequel c'est plus notre personnalité psychologique que vraiment notre cœur profond qui est en jeu. Et je repensais à l'expression de Benoît XVI, hein, des îlots de pensées et de sentiments qui ne se rencontrent pas. À la fois, on s'influence les uns les autres, mais en même temps, on n'arrive pas à rencontrer le cœur de l'autre. On est constamment en interaction. Mais on n'est pas en vraie communion. Chacun reste dans son univers et c'est des univers qui se tamponnent, mais qui ne s'ouvrent pas l'un à l'autre vraiment. Et finalement, on peut dire qu'il n'y a pas de véritable ouverture au sens d'une ouverture de cœur. Comme nous allons le montrer, c'est par l'ouverture du cœur qu'on peut arriver à surmonter les incompréhensions. Il y a une psychologue que j'aime bien, Florence Dacier-Boiredon, qui travaille avec Simone Paco, qui me disait que quand elle commençait un accompagnement, elle partait du principe de départ que la personne ne parlait pas le même langage qu'elle. Je crois qu'il faut partir de ce principe que l'autre parle toujours à partir de son univers psychologique, de ce qu'a été son histoire, donc à partir de ses blessures. Et cette différence, je dirais, elle ne peut être surmontée, comme nous allons le voir, que si on descend dans une communication plus profonde, où c'est vraiment deux libertés qui en profondeur se rencontrent au niveau du cœur. Qu'est-ce qui, au fond, empêche la véritable ouverture à l'autre et une vraie rencontre des personnes? C'est pas d'abord le fait qu'on ait deux personnalités psychologiques différentes et que chacun est dans son, a un univers propre, une histoire propre, mais je crois que c'est surtout le fait de cet esprit de possession et de cet esprit de domination qui contamine notre vie et aussi donc notre communication, qui fait que je ramène les choses à moi et que je n'arrive pas vraiment à m'ouvrir à la nouveauté de l'autre, à la différence de l'autre. En fait, on reste centré sur soi. Quand on essaye de s'ouvrir vraiment à l'autre, de laisser parler son cœur, et que il est en position de un petit peu de soit de domination, qu'il sait déjà, et puis qu'il donne toutes sortes de commentaires ou d'explications sans vraiment prendre le temps de s'ouvrir à ce qu'on essaye de laisser passer. Je pense qu'au bout d'un certain temps, on a tous la même réaction, c'est-à-dire on finit par se fermer et qu'on n'ose plus dire les choses de peur d'être à nouveau déçu et qu'on finit par se résigner à ce que j'appellerais une communication superficielle. On échange sur des choses pratiques ou sur des choses intellectuelles, mais on n'ose plus laisser parler son cœur. Donc, on sent bien que le combat, il est là, hein. De ne pas se résigner à une communication superficielle, de ne pas non plus se laisser aller à tout de suite dominer le dialogue ou à tout de suite, je dirais, ramener les choses comme ça, finalement, que l'autre ne se sente pas vraiment respecté et finisse par se refermer sur lui. J'oubliais une chose, il y en a qui ont des techniques de communication et alors ils savent merveilleusement bien manipuler les autres. Alors comment on peut arriver à dépasser la peur, à dépasser toutes ces barricades? Comment on peut retrouver le chemin d'un vrai dialogue? La première chose, c'est de se remettre devant ce qui est premier. Ce qui est toujours premier dans notre vie, c'est la relation à Dieu. Même si cette relation peut paraître lointaine et abstraite, en réalité, nous sommes créés pour vivre sur terre d'abord en dialogue avec Dieu. Pensez à la parabole du semeur. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans la parabole du semeur? Que la réussite de notre vie va dépendre essentiellement de notre écoute de la parole. Nous porterons du fruit, il restera quelque chose de notre vie pour l'éternité, dans la mesure où nous aurons su laisser Dieu nous parler, parler à notre cœur. Je fais une petite parenthèse. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Deux choses essentiellement. Il a à nous dire sur terre deux choses. Qui il est, se faire connaître. Est-ce qu'il veut le chemin? sa volonté. Et nous avons une vie pour nous ouvrir à cette révélation, de telle manière à parvenir au vrai but qu'est la vie éternelle. Tout ça, on peut ne pas le voir, on peut ne pas y croire, on peut même le rejeter, mais ça reste la réalité profonde de notre vie. Et refuser d'entendre Dieu, c'est déjà une forme de, je dirais, de dialogue, entre guillemets. En tout cas, le plus profond de notre vie, c'est cette relation, voulue ou non, mais qui de toute façon est là, entre le Créateur et la créature. Il faut penser que Dieu ne cesse en réalité de nous éclairer, qu'il veut éclairer tout homme. Et si nous voulons avoir un regard de sagesse sur le dialogue, spécialement entre l'homme et la femme dans le mariage, et la première chose, c'est de se dire que ce dialogue entre nous, les humains, son sens ultime se situe à l'intérieur de ce dialogue avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu va me parler à travers le dialogue avec l'autre. Autrement, j'ai besoin de l'autre pour entendre Dieu. Et d'une manière particulière dans le mariage, parce que le mariage, c'est un sacrement, et un sacrement, c'est un moyen d'union à Dieu. Et donc, dans le mariage, il y a une grâce particulière donnée aux conjoints pour qu'à travers leur dialogue, Dieu puisse parler. Et ici, on peut repenser à la parole, à la promesse de Jésus, que deux ou trois soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Il n'y a personne qui soit autant réuni au nom de Jésus que des conjoints, puisqu'ils sont unis par un lien sacré. Donc non seulement vous pouvez, mais vous devez vous appuyer sur cette promesse de Jésus, que deux ou trois soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors c'est vrai que être réuni en son nom, je dirais, ça se réalise d'une manière particulière quand on se tourne ensemble vers Dieu, et on reparlera l'année prochaine de la prière conjugale, peut-être le lieu privilégié de dialogue à la fois des conjoints entre eux et des conjoints avec Dieu. La prière nous unit à Dieu, mais elle nous unit aussi les uns aux autres. Elle permet donc ce dialogue de cœur à cœur que nous recherchons tous et dont quelquefois nous sommes tentés de désespérer. Mais il n'y a pas que la prière, on ne peut pas toujours revenir à la prière ensemble pour dialoguer dans la présence de Dieu, mais il y a le fait surtout être réunis au nom de Jésus, comme l'explique saint Jean de la Croix, c'est être réunis aussi au nom de la vérité, d'une recherche commune de la vérité. Comme dit saint Jean de la Croix, Dieu est avec ceux qui s'assemblent pour savoir la vérité, afin de l'éclaircir et confirmer en eux. C'est-à-dire, quand je vais vers l'autre avec un sincère désir de parler avec lui pour qu'en parlant avec lui, Dieu éclaire, en mettant ma confiance en Dieu, de fait, Dieu est présent à ce moment-là, et à travers ce dialogue vécu, je dirais, dans la conscience que Dieu est présent, dans l'espérance qu'il va se servir de ce dialogue pour nous parler, de fait, il y a des lumières qui sont données. Voyez, le fait de référer à Dieu nous met en fait dans une attitude d'humilité, c'est-à-dire c'est pas moi qui sais, c'est pas l'autre, c'est Dieu. Et donc va permettre un dialogue plus profond parce qu'on se retrouve, je pense au dialogue que je peux avoir avec des confrères aussi, on est unis aussi en tant qu'on est tous prêtres, on partage le même sacrement de l'ordre. Et quand on se retrouve ensemble vraiment pour se mettre à l'écoute de Dieu, c'est à ce moment-là qu'on est le plus à l'écoute les uns des autres. Parce que je me laisse instruire par l'autre parce que je me laisse instruire par Dieu. Vous voyez, c'est pas une dépendance aliénante à quelqu'un qui domine et qui m'influence. Et en réalité, je n'ai qu'un seul maître, le Christ. Et dans cette confiance en Dieu et en Dieu seul, je peux avoir confiance qu'à travers ce que me dit l'autre, une vérité peut m'être donnée parce que je la reçois de Dieu. Vous voyez, la relation à Dieu, elle libère et elle ouvre les cœurs. Elle permet de se retrouver en vérité l'un devant l'autre, c'est-à-dire humble et pauvre. Personne ne possède la vérité, c'est Dieu lui-même qui est la vérité, et on se met ensemble à l'écoute de Dieu. Comme dit Jean-Paul II, à travers le dialogue, nous nous ouvrons l'un à l'autre, mais nous nous ouvrons également à Dieu, en même temps que nous nous ouvrons l'un à l'autre dans le dialogue. Et c'est la certitude qu'en nous ouvrant l'un à l'autre, nous nous ouvrons à Dieu, qui nous donne la force de nous ouvrir l'un à l'autre. Je dirais aussi une autre chose, c'est que Dieu nous parle essentiellement à travers les événements. Il y a des choses qu'on ne comprend qu'avec les événements. S'il n'y a pas une épreuve, s'il n'y a pas un passage dans notre vie important, on sent bien qu'on reste dans notre petite bulle, tant qu'il n'y a pas, je dirais, une brèche qui se fait à travers la vie réelle. Mais les événements à travers lesquels Dieu nous parle, ils ont besoin d'être éclairés, on a besoin des mots aussi, on a besoin de dire les choses. Et quand on parle avec l'autre de ce qu'on a vécu, et que l'autre reçoit ce que l'on a dit en étant conscient qu'en écoutant et en vivant ce dialogue, la lumière de Dieu va pouvoir se faire, eh bien, de fait, ça nous permet de mieux comprendre le sens des événements. Oui, c'est-à-dire c'est là qu'on avance dans la même direction. Si on a le même désir d'écoute de Dieu au fond de son cœur, si on a le même désir de sagesse, de meilleure compréhension du sens de la vie, des événements, de pouvoir, à ce moment-là, on s'aide l'un l'autre parce que nul n'est bon juge sur soi. Et l'autre, il va avoir un regard, s'il est vraiment dans une attitude de service, s'il est conscient qu'il rend service à l'autre, qu'il lui permet de s'ouvrir à la lumière de Dieu en étant écoutant, Et en laissant descendre dans son cœur ce que l'autre dit avec son cœur, à ce moment-là, on se rend de grands services. Tantôt c'est l'un qui rend ce service, tantôt c'est l'autre, tantôt c'est... On est vraiment serviteur là, en fait, serviteur de Dieu, de la lumière de Dieu, l'un pour l'autre. Sur ce terrain des événements de la vie, comme les pèlerins d'Emmaüs, vous voyez, qui partagent sur un événement, et Jésus est là, qui, en même temps qu'ils parlent l'un avec l'autre, Jésus est là présent, qui les accompagne, et qui finit par leur montrer le sens ultime des choses. Je repense à une réflexion de Sainte Faustine, qui dit, c'est important de prier pour son confesseur avant de se confesser. C'est évident que dans la confession, on attend des lumières de Dieu à travers le ministre. Voyez, mais prier pour son conjoint avant de lui parler, pour qu'il puisse être instrument de la lumière de Dieu, et surtout avoir cette foi que malgré le fait qu'il ne nous comprenne pas humainement, qu'on ne se soit pas compris humainement, qu'on sente qu'il y a plein de blocages, qu'on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde, comme on dit, eh bien l'Esprit Saint va dépasser ça. Et que je peux recevoir de Dieu des lumières de quelqu'un qui, même humainement, psychologiquement, ne me comprend pas. Vous voyez, là, on arrive par la foi à dépasser des peurs, des blocages, tout simplement parce qu'on met les choses dans leur vraie vérité, c'est-à-dire en définitive, mon vrai et premier dialogue, c'est avec Dieu. Donc si je vis le dialogue avec l'autre à l'intérieur du dialogue avec Dieu, ça finira par tout débloquer parce que en réalité c'est la vérité. La vérité, c'est que mon salut, mon bonheur dépend de cette écoute de Dieu. La vérité, c'est que j'ai besoin de l'autre pour écouter Dieu. La vérité, c'est que c'est le premier service, c'est la première raison du fait qu'on puisse se parler les uns aux autres, c'est pour que Dieu puisse nous parler. Donc garder cette confiance, cette foi en la présence divine qui passe à travers même des canaux très faibles, très pauvres, c'est source d'une profonde libération intérieure. Ici, j'ai envie de reprendre une expression du Père Thomas qui disait, bon, on écoute son directeur spirituel, son père spirituel, on écoute le confesseur et tout ça, mais après, on se retrouve dans la prière et on laisse l'Esprit Saint faire le tri. C'est-à-dire, en même temps, on reste totalement libre par rapport à ce que l'autre peut nous dire. Parfois, on l'écoute sans peur, sans réserve, on se laisse instruire, on peut dire totalement par lui, et en même temps, on se laisse instruire que par Dieu. J'insiste. Vous voyez? On reçoit de l'autre, on accepte de dépendre de l'autre, et en même temps, on ne dépend que de Dieu. On échappe à un rapport, voyez, de dominant-dominé, un rapport où il y en a un qui est plus, qui sait, l'autre qui sait pas, hein, qui, bon, parce que tout devient relatif quand on se situe face à Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu nous demande pour être instrument de sa lumière, être instrument pour l'autre, pour qu'il y ait un dialogue en vérité qui soit toujours en même temps dialogue avec Dieu. Seigneur, qui séjournera sous ta tente? Qui habitera ta sainte demeure? Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice, et dit la vérité de son cœur sans laisser courir sa langue. Je vais m'arrêter sur cette expression du psaume 14. Celui qui dit la vérité de son cœur sans laisser courir sa langue. Qu'est-ce que ça veut dire dire la vérité de son cœur? Notre intelligence, elle est un œil, l'œil de l'âme, comme disaient les pères de l'Église. Notre intelligence, elle est faite pour voir. Comme l'œil du corps, notre intelligence, elle a besoin de lumière. Elle a besoin de lumière pour voir les choses comme elles sont, c'est-à-dire en réalité comme Dieu les voit. Être dans la vérité, c'est être dans la lumière de Dieu, qui nous permet de voir les choses dans leur vérité profonde, dans leur signification profonde. Ce qui fait dire à Saint Thomas d'Aquin que personne n'a accès à la vérité sans l'Esprit Saint, de manière étonnante. Même des gens qui ne sont pas croyants, en réalité, s'ils touchent le réel, si à un moment ils voient vraiment les choses, en vérité, c'est qu'ils ont la lumière divine en eux. C'est pas possible autrement. C'est notre intelligence qui voit, c'est pas notre cœur. Mais on dit la vérité de son cœur parce que on peut dire que l'intelligence à ce moment-là, elle est inséparable du cœur. Pourquoi? Parce que c'est par l'ouverture de notre cœur que notre intelligence va pouvoir s'ouvrir à la lumière divine. Pour dire les choses d'une autre manière, la lumière qui nous éclaire, c'est celle de l'amour. S'il n'y a pas l'amour dans mon cœur, il n'y aura pas la lumière dans mon intelligence. Où je vois les choses, où je ne les vois pas. Il y a une très grande différence entre voir et savoir. On peut avoir des idées sur les choses qui sont exactes, mais ce n'est pas pour autant qu'on voit vraiment les choses. Par exemple, je peux vous dire Dieu est amour, je le sais, mais ce n'est pas pour autant que maintenant je vois que Dieu est amour. Je peux dire à quelqu'un Jésus t'aime, Mais je peux très bien ne pas voir qu'en ce moment-là, le regard de Jésus sur la personne. Par contre, si vraiment, au moment où je parle à la personne, je vois l'autre comme Jésus le voit, et que je lui dis Jésus t'aime, ça a une force incroyable. Parce que ma parole est vraie. Parce que je dis ce que je vois. Mais si je ne dis pas ce que je vois, mais ce que je sais, je vais parler avec ma tête. C'est plus l'intelligence du cœur. Et l'autre va le recevoir dans sa tête. Il va dire, ah bon, Jésus m'aime, bien. Oui. À la limite, il acceptera, il dira, ah oui, ah bon, bien. Mais ça ne touchera pas son cœur et ça ne vient pas de mon cœur. On est d'accord. On fait cette expérience malheureusement tous les jours. Il n'y a que ce qui vient du cœur qui parle au cœur, il n'y a que ce que je vois qui peut faire voir quelque chose à l'autre. Et donc, ma parole, elle a la force de ma vision. C'est ça être témoin. Témoin, il dit ce qu'il voit. S'il n'a rien vu, il dit rien normalement. Il y a des personnes qui parlent beaucoup sans rien voir, il y en a qui voient beaucoup sans rien dire, parce qu'elles ont du mal à exprimer ce qu'elles voient. Mes paroles sont vivantes, elles sont vivifiantes. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie, dans la mesure où, de fait, elles laissent passer cette vision, elles laissent passer une connaissance intérieure, parce que l'autre va être vivifié, l'autre va être nourri, en rentrant dans une, de fait, dans une vision, je vais lui laisser voir quelque chose de ce que je vois. Mais ici, je me permets de faire une petite remarque. Quand on dit, je ne sais pas moi, si vous dites à une personne, je ne sais pas que. Que la croix est le chemin de l'amour le plus grand, par exemple. Qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Si vraiment, moi, en ce moment-là, je le perçois parce que je suis dans la contemplation, je vois Jésus, donc je suis en contact avec le mystère de la passion de Jésus, et vraiment, je perçois ce que je dis. La manière dont ça va résonner dans le cœur de l'autre, on n'en sait rien. Voyez, la personne est peut-être touchée par quelque chose que je dis qui me touche moi-même, mais la manière dont ça va le rejoindre dans son cœur, ça me dépasse. Il y a quelque chose qui va bouger, il y a une lumière qui va être donnée, parce que ma parole est lumineuse. La parole, elle est au service d'une vision, parce que, voyez, elle est au service de la vérité. La vérité, c'est la vision elle-même. Ma parole, elle laisse passer quelque chose de ce que je vois. Si je ne vois rien, elle est vide. C'est verbal, c'est intello, c'est rien. Même si c'est très beau en surface. Mais si je laisse passer une vision, quelque chose de ce que je vois va éclairer le cœur de l'autre, l'intelligence profonde de l'autre, mais la manière dont il va le recevoir, ça me dépasse. Je suis très frappé après une homélie, j'ai laissé parler mon cœur, les gens me disent, ah ben j'ai compris telle chose, mais auquel moi je n'avais absolument pas pensé. Donc ça les a rejoints. Mais chacun reçoit, c'est comme la manne dans le désert, chacun le reçoit avec son estomac à lui, avec sa sensibilité, avec tout ce qu'il a déjà fait comme chemin dans sa vie. Et donc, en réalité, quand je dis la vérité de mon cœur, je ne sais pas comment ça va, quel effet ça va avoir sur l'autre. J'ai envie de dire, il faut dire la vérité de son cœur en acceptant de lâcher prise. Parce qu'à ce moment-là, on est au service d'une vérité qui nous dépasse, d'une lumière qui nous dépasse, qui nous est donnée par Dieu, et qui est donnée à l'autre à travers nous par Dieu, pour lui permettre d'avancer dans sa vie, sans que je puisse dominer aucunement la situation. J'en profite pour dire que si je ne suis pas dans l'écoute de mon cœur, voyez, mais que si je suis dans le raisonnement et que je cherche à conduire l'autre comme un maître en lui disant ce serait important qu'il comprenne que, voyez, qu'on veut le convaincre de ceci ou de cela, à ce moment-là, on se met à la place de Dieu quelque part, puisqu'on veut diriger l'autre d'un point à un autre. Voyez. Et au lieu d'être serviteur de la lumière, serviteur de la vérité, eh bien, on cherche à dominer. Et en cherchant à dominer, on tombe dans le raisonnement, dans le calcul. Et c'est là qu'on se met à donner toutes sortes d'explications, de dire, ben voilà, il faut que tu comprennes que, moi je te dis que, c'est ceci, c'est cela. Et en fait, on n'est plus en contact avec son cœur, ni avec le cœur de l'autre. Mais ces deux, c'est une volonté de puissance qui s'exerce, alors qu'en réalité, l'autre n'a qu'un seul maître, qu'un seul enseignant, Dieu lui-même, et je dois accepter d'être un instrument qui est dépassé par l'action divine. Ça, c'est le point essentiel. Si vous avez compris ça, vous avez compris toute la difficulté du dialogue. S'effacer devant la vérité elle-même, cette part de vérité que Dieu met dans mon cœur, je la laisse passer au service de l'autre en laissant Dieu faire. Voyez à ce niveau-là qu'une parole qui vient du cœur, qui sort, on va en reparler, au moment juste, en étant vraiment dans docile à l'Esprit Saint, finalement, qu'on en ait conscience ou pas, elle peut avoir un impact pour toute la vie de la personne, alors que des heures de discussion, en restant au niveau de la tête, restent stériles. Ça, la vérité profonde. Quand on accepte de lâcher prise, quand on accepte de n'être qu'un humble et pauvre serviteur d'une vérité qui ne vient pas de nous, comme dit Jésus, je ne parle pas de moi-même, les paroles que je vous dis sont les paroles de Dieu, les paroles de mon Père, que j'ai entendues de mon Père. Jésus lui-même a dit la vérité de son cœur, cette vérité que le Père a mise dans son cœur, parce qu'il est comme fils unique toujours à l'écoute du Père. Quand on est dans cette attitude-là et qu'on laisse passer la lumière et que l'autre la reçoit, à ce moment-là, qu'est-ce qui nous unit? Et c'est cette lumière commune. Chacun la reçoit et la capte différemment. Chacun va l'exprimer différemment. L'autre va dire des choses que moi je n'aurais jamais dites. Il va se mettre à penser des choses auxquelles je ne pensais pas. Mais il y a un fond commun qui est la lumière commune. Et donc on peut avoir une unité de l'esprit dans une très grande diversité de pensées. Sur fond à la fois d'une commune écoute de Dieu et d'une commune lumière intérieure. C'est à ce moment-là qu'on se rejoint vraiment les uns les autres, tout en acceptant qu'il y ait de fait une grande différence dans la manière de comprendre les choses, mais au niveau le plus profond, c'est-à-dire de cette perception intérieure, il y a un fond commun. Ça rejoint ce que dit Benoît XVI, c'est que le fond commun, c'est Dieu, c'est la présence divine. Mais ici, on dit le fond commun, c'est la lumière divine. C'est ce qu'on appelle l'unité de l'esprit, avec un petit E. L'unité de l'esprit, l'unité de l'intelligence profonde. Qui permet donc de dépasser ces différences de culture, différences qui sont liées aux personnalités psychologiques. Par rapport à ça, moi j'aime bien dire voir ou savoir, il faut choisir. Mais écoutez l'écriture. Les lèvres des bavards répètent les paroles d'autrui. Pensons à tout ce que nous disons en ne faisant que répéter ce qu'on a entendu. Comme disent les jeunes maintenant, c'est nul. Ben oui, c'est pas ma vérité. Je répète des trucs. L'élève des bavards répète les paroles d'autrui. Que ce soit lu dans un bouquin, que ce soit entendu dans une conversation, c'est pas la vérité de mon cœur, mais je balance ça. C'est une idée qui me revient dans la tête et puis je balance mon idée. comme ça. Je communique. Je communique rien du tout. C'est du vent. L'élève des bavards répète les paroles d'autrui. Vous voyez ? Supprimons, si on supprime de nos conversations tout ce qui est de l'ordre des paroles d'autrui, ça fait déjà un sacré déblayage, hein, faut le reconnaître. Hein ? Bon. Qu'est-ce que je pense, moi, vraiment ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vois ? Si je vois rien, je dis rien. Mais de quoi on va parler ? On va attendre que la lumière se fasse. Le silence instruit. Hein? Le silence instruit. Les blèves des bavards répètent les paroles d'autrui. Les paroles des sages sont soigneusement pesées. Écoutez encore le Siracide. As-tu entendu quelque chose ? Sois un tombeau. Courage, tu n'en éclateras pas. Une parole entendue, et voilà le sot en travail, comme une femme en mal d'enfant. Interprétez comme vous voulez. Hein. Une parole entendue, les gens qui... Alors, on leur a dit un truc, et toute la journée, ça rime, ça cavale, tout ça, et au lieu de se remettre un moment devant Dieu dans la prière, et de laisser les tris se faire, ils sont... C'est comme une flèche dans la cuisse, une flèche plantée dans la cuisse, telle est la parole dans le ventre du sot. Laissons Dieu parler à notre cœur pour pouvoir parler au cœur de l'autre et ne nous laissons pas piéger par le monde des idées. Vous voyez, en réalité, on peut parler librement et être vraiment soi-même dans la relation à l'autre que si on s'est d'abord intérieurement mis à l'écoute de Dieu. C'est-à-dire mis à l'écoute de la lumière, mis à l'écoute de ce qu'il met dans notre cœur. Alors, dans un couple, hein, mieux vaut la qualité que la quantité. La vérité de son cœur, ce n'est pas nécessairement des choses spirituelles, hein, ça peut être simplement de dire simplement qu'on a de la colère ou que l'on... Mais dans une attitude, je dirais, de confession, c'est-à-dire d'être en vérité avec l'autre, parce que c'est ce qu'on perçoit maintenant de l'état dans lequel on est et qu'on éprouve, on sent le besoin. C'est important de le dire à l'autre. La vérité de son cœur, ça peut être une vérité toute simple. Mais si Dieu met ça dans notre cœur maintenant, et qu'on se sent poussé à le dire à l'autre de l'intérieur, c'est que ça va rejoindre l'autre, et que c'est à travers ça qu'il va y avoir quelque chose, un dialogue qui va se vivre. Mais si on commence par dire des choses que l'on ne pense pas vraiment, qui ne sont pas vraiment profondes, c'est très difficile ensuite de revenir à une vérité du cœur. Parce qu'on a commencé par... si on commence mal le dialogue, au niveau de la tête, pour revenir ensuite au niveau du cœur, moi, personnellement, je trouve que c'est très difficile de sortir du raisonnement une fois qu'on a embrayé une discussion comme ça, où c'est deux raisonnements qui se rencontrent et que ça n'aboutit à rien. À mon sens, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'arrêter le contact là, de revenir au silence et de revenir vers l'autre ensuite dans d'autres dispositions. Écoutez Saint Bernard, cité par Benoît XVI. Si tu es sincère avec toi-même, que tu commences à voir à partir de toi, buvant à ton propre puits, tu peux aussi dire aux autres ce qu'il faut dire. C'est-à-dire, buvant à ton propre puits, n'en dis pas plus que ce que tu peux en dire. Il parle là, notamment, par rapport au témoignage. Et il insiste ensuite sur la simplicité de ce qui est vrai, c'est-à-dire dire purement et simplement la vérité de son cœur, c'est pas en dire plus. Heureux l'homme qui dit la vérité de son cœur sans laisser courir sa langue. Des fois, on commence bien et puis on en rajoute pour faire mieux. Je rajouterai aussi la parole de Siracide. Le sage sait se taire jusqu'au bon moment, mais le bavard et l'insensé manquent l'occasion. C'est-à-dire, si je parle dans le vide, je ne vais pas sentir le moment où je dois parler, puisque je suis dans une sorte d'engrenage. À partir du silence, le sage sait se taire jusqu'au bon moment. Si je découvre la valeur du silence, on en reparlera en parlant de l'écoute la prochaine fois. À ce moment-là, je peux sentir dans mon cœur non seulement la vérité que j'ai à dire, mais le moment et la manière de le dire.